Good evening.
Bonsoir.
Well, I have enjoyed being here with everyone.
J'ai vraiment apprécié mon séjour ici parmi vous.
I'm leaving in the morning.
Je pars demain matin.
But I appreciate the hospitality.
J'apprécie votre hospitalité.
I'm a little tired this evening. I don't know about you.
Je suis un peu fatigué. I had some rest, and you didn't.
I had a little nap.
Il a eu une toute petite sieste, mais il est fatigué. Il faut dire qu'il n'a pas arrêté une seconde depuis qu'il a mis les pieds.
I've really enjoyed teaching the students at the Bible
Institute. Donc c'était une joie d'enseigner les étudiants à l'Institut biblique cette semaine.
It's a wonderful group of young people out there.
Voilà un bon groupe là de jeunes gens.
And I'm looking forward to seeing God do some great things.
Et j'attends de Dieu qu'il fasse de grandes choses à travers ces hommes et ces femmes.
And hope to come back in the fall.
Et je voudrais revenir pendant l'automne.
So we shall see. We'll certainly pray about it.
Yeah. Un sujet de prière.
I want to share with you some of the things that I've been teaching the students in the Bible Institute.
Donc j'aimerais partager avec vous des choses que j'ai enseignées aux étudiants.
I have met a lot of people throughout the years of my ministry who had disdain toward the Old Testament.
J'ai croisé pas mal de gens dans mon ministère qui ont un certain dédain pour l'Ancien Testament.
I met some people who had the idea that even in the New Testament, that only the words that were in red, you know, Jesus, the words that Jesus spoke, those are really only the words that we really should be concerned
about. J'ai aussi rencontré des personnes pour qui seules les paroles en rouge, vous savez, les paroles de Jésus dans certaines Bibles sont en rouge, sont valables. Le reste n'a pas beaucoup de valeur.
And that really concerns me when I hear that. But I've also heard people say that the Old Testament is not really that important for Christians today.
Mais donc, j'aimerais revenir sur ceux qui pensent que l'Ancien Testament n'est pas si important que cela pour le chrétien.
And I've heard some preachers say pretty much the same thing.
Et j'ai même entendu des prédicateurs dire de telles choses.
I could name a famous preacher that you all probably would know who actually believes that.
Et même je connais un prédicateur que vous devez connaître aussi et qui croit que l'Ancien Testament n'est pas très intéressant.
And most all of his teaching and preaching is exclusively out of the New Testament. Most all of it. He does some in the Old Testament.
Et la majorité de son enseignement est basée sur le Nouveau Testament, très très peu sur l'Ancien.
But I believe what Paul said in 2 Timothy 3:16 that all scripture is given by inspiration of God.
Mais je crois ce verset de 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture.
And all scripture is profitable for teaching and for reproving and rebuking and instruction in righteousness.
Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour reprendre, etc. et instruire dans la justice.
So what I'd like to talk to you tonight about for a few minutes is the importance of the Old Testament for Christians.
Donc, j'aimerais commencer en vous parlant de l'importance de l'Ancien Testament pour le chrétien.
And I'd like to start with Romans 15.
Et en Romains, chapitre 15.
And we'll look at the first four verses.
Romains 15, 1 à 4.
In Romans 14 and 15, Paul is discussing the issue of Christian liberty.
En Romains 14 et 15, ces deux chapitres, il parle de la liberté chrétienne.
And he talks about the fact that Christians don't all believe the same thing. We have differences of opinion in certain areas.
Il relève que les chrétiens n'ont pas toujours la même opinion sur différents sujets.
And Paul says when it comes to those differences of opinion, you have to continue to love one another.
Mais il dit indépendamment de votre différence d'opinion, vous devez continuer à vous aimer les uns les autres.
He uses a couple of examples in the early part of chapter 14, because chapter 14 and the first part of chapter 15 really are talking about the same subject.
Donc, il utilise plusieurs exemples au chapitre 14, et le chapitre 15 est vraiment la continuation de son explication.
For example, he says in verse 2, one believer believes that he can eat anything that he wants. And another believer may believe that he should only eat vegetables.
Donc, Romains 14, 2, par exemple, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes.
Verse 3 and 4, he makes it clear that you're not to judge one another for those personal convictions.
Et au verset 3 et 4 qui suivent, il dit, vous ne devez pas vous juger les uns les autres si vous avez des convictions différentes à ce sujet.
Verse 5, he says, one person esteems one day above another, another esteems every day alike.
Verset 5, c'est un autre exemple. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux.
And so, verse 10, why do you judge your brother?
Verset 10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère?
Or why do you set at naught your brother? Don't do that.
Ne juge pas ton frère, ne méprise pas ton frère.
We are in the body of Christ, we are God's children. And there's no room for judgmentalism and division and strife over issues that are matters of personal preferences.
Donc nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes membres du corps, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous ne devons donc pas nous battre sur des sujets qui sont du niveau de l'opinion.
So in chapter 15, he says the believers who are more mature and who are stronger should understand that and practice that.
Chapitre 15, verset 1, il dit, nous qui sommes ceux qui sont plus matures dans la foi, plus forts, doivent supporter ceux qui sont plus faibles.
And consider the believers who are less mature when it comes to those differences.
Considérer et respecter les chrétiens qui ont des convictions différentes et qui sont plus sensibles dans leur conscience.
And focus on edifying one another and building one another up. Not well, I can't fellowship with you because you don't believe this.
Donc, verset 2, on doit être focalisé sur l'édification, pas sur le jugement. On ne doit pas dire, je ne peux pas avoir de relation avec toi parce que tu crois, tu as telle opinion sur tel sujet.
And then he says in verse 3, that's the example that Christ gave us.
Et il dit que c'est même le Seigneur Jésus-Christ qui faisait comme ça. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait.
And then he refers to the Old Testament in verse number 4.
Et nous arrivons donc au Romains 15, 4. La référence à l'Ancien Testament.
So it's interesting that in this context of not judging one another, he talks about the importance of the Old Testament.
Et donc dans ce contexte de ne pas se juger les uns les autres, il va citer l'Ancien Testament.
And I think one of the reasons for that is because someone might say, well, you don't observe the feast days, you don't observe the Sabbath, you don't do those things. Well, those are things that were mentioned in the Old Testament.
Parce qu'il y avait certainement des chrétiens qui disaient, mais toi, tu ne respectes pas les sabbats et les fêtes religieuses. Et parce qu'ils faisaient référence à l'Ancien Testament.
You don't eat sausage, you don't eat bacon, you don't eat pork.
Tu ne dois pas manger de porc, de saucisse, de bacon, de jambon.
Okay. Those are all things that are mentioned in the Old Testament.
Donc tout ça est effectivement dans l'Ancien Testament.
So they're not to be used to bring division in the body of Christ.
Donc il insiste pour dire qu'on ne doit pas utiliser ces différences pour diviser le corps de Christ.
And then Paul tells us that the Old Testament scriptures in verse number 4.
Et il nous dit que toute l'écriture de l'Ancien Testament, verset 4.
Whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope.
Tout ce qui a été écrit avant nous l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.
And he's speaking clearly about the Old Testament scriptures.
Et là, il fait une référence directe à l'Ancien Testament.
And rather than causing division, they were written to encourage us and give us hope.
Il dit, ça n'a pas été écrit pour nous diviser, ça a été écrit pour nous instruire et nous donner de l'espérance.
Now, let me just talk about why it's important for a Christian to be familiar with the Old Testament and to spend time studying the Old Testament and reading the Old Testament.
Maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi c'est important qu'un chrétien connaisse l'Ancien Testament et passe du temps dans l'Ancien Testament.
I'm going to give you four reasons and then we're going to talk about why we neglect it and what we can do about neglecting the Old Testament as believers.
Je vais vous donner quatre raisons pour lesquelles c'est important d'étudier l'Ancien Testament et aussi je vous dirai pourquoi trop de chrétiens négligent l'Ancien Testament.
Okay. First reason why it's important
is
because the Old Testament provides the foundation for the entire Bible.
Parce que nous trouvons dans l'Ancien Testament la fondation pour le reste de la Bible.
Creation,
la création,
the fall of man,
la chute de l'homme,
explains why we're sinners.
Ça explique pourquoi nous sommes tous pécheurs.
It explains the need of a savior.
Ça explique le besoin d'un sauveur.
God's desire to be glorified through his people.
Comment Dieu se glorifie à travers un peuple ou son peuple?
God's overall plan for the good and the benefit of man in eternity.
Et le plan de Dieu à travers les âges pour bénir l'humanité.
All that is expressed and revealed in the Old Testament.
Tout ça est expliqué, révélé dans l'Ancien Testament.
And especially in the book of Genesis, you know, there are some Christians, they call themselves Christians, but they don't, a lot of what is written in the book of Genesis, they don't hold to that.
en particulier le livre de la Genèse, il y a des personnes qui s'appellent chrétiens mais qui disent le livre de la Genèse ce n'est pas vrai, c'est pas
I think especially the first six chapters of the book of Genesis, the days of creation, I think there were 24 literal days.
Par exemple, les six premiers jours de la création, nous croyons que c'était six jours de 24 heures.
I think the flood was a universal flood.
Le déluge universel, nous croyons qu'il était vraiment universel sur toute la terre.
And there are things in the Old Testament that if you don't understand those things or you're not familiar with those things, then you don't have a foundation for understanding the rest of the Bible.
Et il y a un certain nombre de choses dans l'Ancien Testament, si vous ne les connaissez pas, vous n'avez pas les bonnes fondations pour votre vie chrétienne d'ailleurs.
The second reason
Deuxième raison.
Is because the Old Testament was clearly important to Jesus and his disciples.
Parce que l'Ancien Testament avait beaucoup d'importance aux yeux du Seigneur Jésus et des apôtres.
When Jesus was tempted in Matthew chapter 4,
Matthieu 4, Jésus est tenté par le diable.
How did he combat the temptation from Satan? How did he deal with that?
Comment fait-il face à la tentation?
He used the Old Testament scriptures.
Il cite l'Ancien Testament.
Now Satan tried to use the scriptures against Jesus as well.
Et Satan essaie d'utiliser ces mêmes écritures contre lui.
But the difference was that Satan took it out of context.
Mais Satan lui les prend hors du contexte.
And that's why it's so important whenever you read the Bible to understand the context of the passage that you're reading.
D'où l'importance lorsque vous lisez la Bible de connaître le contexte du passage.
But as you know, three times Jesus was tempted by Satan and every time he answered him with the word of God.
Trois fois Satan vient tenter Jésus et chaque fois il répond avec les Écritures.
Old Testament scriptures.
L'Ancien Testament.
The disciples used it throughout the book of Acts.
Dans le livre des Actes, les apôtres citent constamment l'Ancien Testament.
When Paul traveled on his missionary journeys and preached in synagogues and marketplaces, he used the Old Testament scriptures to persuade people that Jesus is the Messiah.
Paul, dans ses voyages, dans ses prédications à la synagogue, lorsqu'il est dans le marché, partout où il va, il veut convaincre que Jésus est le Messie et il se sert de l'Ancien Testament.
And the early believers, for them, that was their encouragement, that was their nourishment from the Word of God.
Pour les premiers chrétiens, l'Ancien Testament était leur base de foi, de nourriture et de consolation.
And they clearly recognized this authority.
Et c'était une autorité dans leur vie.
So it was important to Jesus and his disciples.
Donc c'était, deuxième raison, c'est important pour Jésus et ses disciples.
It also provides a historical setting for Christianity.
Is it the third reason?
Yes, the third reason.
Troisième raison, ça donne un arrière-plan de la foi chrétienne. La base de la foi chrétienne se trouve dans l'Ancien Testament.
Because without the Old Testament, you don't understand the future of Israel.
Par exemple, si vous n'avez pas l'Ancien Testament, vous ne comprenez pas le futur d'Israël.
There are a lot of people who think that the church has taken the place of Israel.
Il y a pas mal de gens qui pensent que l'Église a remplacé complètement Israël.
And God's completely finished with Israel.
Et que Dieu ne s'occupe plus du tout de son peuple Israël.
But the New Testament makes it clear, especially Romans 9 through 11, that God still has a plan for Israel.
Mais le Nouveau Testament est clair, notamment Romains 9 à 11, que Dieu n'a pas fini avec Israël.
And if he does not, then there are many, many promises in the Old Testament that God will fail to fulfill.
Et si Dieu avait laissé tomber Israël, il y aurait plein de prophéties de l'Ancien Testament qui seraient sans valeur, qui ne seraient pas encore appliquées.
The Old Testament describes again and again the hope for the Messiah.
Dans l'Ancien Testament, c'est là qu'on trouve aussi l'espérance du Messie.
Which is the historical background for Christianity.
C'est donc l'arrière-plan historique de la foi chrétienne.
Jesus is the Messiah, and you've got all these Old Testament scriptures, you've got all these prophets that were prophesying and talking about the Messiah who was to come.
Tous ces prophètes de l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un Messie, d'un Sauveur, et Jésus est venu accomplir ces prophéties.
The Old Testament helps us to understand the life of faith.
L'Ancien Testament aussi nous aide à comprendre la vie par la foi.
Look at what Abraham did when God called Abraham.
Rappelez-vous comment Abraham a fait lorsque Dieu l'a appelé.
Look at the examples in the Old Testament of the importance of faith in God and trusting God and how obedience goes along with faith.
Tous ces exemples de foi dans l'Ancien Testament et aussi comment l'obéissance est fondamentale dans la foi.
So as you read the Old Testament, it provides that historical setting for a better understanding of Christianity and living the Christian life.
Donc l'Ancien Testament donne un arrière-plan solide pour comprendre la vie chrétienne, la foi, et aussi pour avancer.
And the fourth reason that the Bible, the Old Testament, is important is because it also provides spiritual nourishment for the believer.
La quatrième et dernière raison pour laquelle c'est important, l'Ancien Testament, c'est parce que ça produit une nourriture pour le croyant.
There is devotional or inspirational material in the Old Testament.
Il y a énormément de passages qui sont nourrissants pour l'âme, qui font du bien à l'âme.
Can you imagine a Bible without the book of Psalms?
Pourriez-vous imaginer la Bible sans le livre des psaumes?
Look at what you would be missing without the book of
Qu'est-ce
Psalms.
Qu'est-ce qu'on manquerait si on n'avait pas les psaumes?
Look at what you would be missing without the inspiration of Nehemiah returning to Jerusalem and rebuilding the walls of Jerusalem.
On raterait beaucoup si on n'avait pas le livre de Néhémie qui nous inspire lorsqu'il va retourner à Jérusalem, rebâtir les murailles de la ville.
Look at what you would be missing without Abraham's willingness to trust God and offer up his son Isaac, knowing that God could raise him from the dead.
Ça nous manquerait vraiment s'il n'y avait pas l'histoire d'Abraham qui, par la foi et l'obéissance, est allé sacrifier son fils sur la montagne comme Dieu lui avait demandé.
So there's tremendous inspirational and devotional material in the Old Testament.
Donc, il y a vraiment beaucoup d'inspiration pour nous et pour aimer Dieu et le servir dans l'Ancien Testament.
There's also instructional material in the Old Testament.
Il y a également beaucoup d'instructions dans l'Ancien Testament.
Look at 1 Corinthians chapter 10.
Si vous regardez 1 Corinthiens chapitre 10.
Now in 1 Corinthians chapter 10, Paul again is talking about an Old Testament example of Moses in the wilderness.
Dans ce chapitre 10, Paul donne l'exemple de Moïse et du peuple juif dans le désert.
And you may remember when Moses was in the wilderness with Israel, they wanted water, and so Moses smote the rock and water came out.
Vous rappelez qu'à un certain moment, le peuple avait très soif. Ils ont dit, nous voulons boire. Et Moïse a frappé le rocher et de l'eau est sortie du rocher.
So Paul refers to that simply as an illustration. And he says that was an illustration of Christ who provides us the living water.
Paul dit que ce fait est une illustration de Christ qui aujourd'hui nous abreuve notre âme. Hein, nous donne...
but then he makes his point that even though God provided them that water in the wilderness, verse 5 says, but with most of them, God was not well pleased.
Il dit, même si Dieu a donné l'eau du rocher, verset 5 de chapitre 10, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu.
And verse 6 says, now these things became our examples.
Verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple.
To the intent that we should not lust after evil things as they also lusted.
Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
And do not become idolaters as were some of them.
Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux.
Verse 8, nor let us commit sexual immorality as some of them did.
Ne nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'entre eux.
Verse 9, nor let us tempt Christ as some of them also tempted and was destroyed by serpents.
Verset 9, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns.
Verse 10, nor complain.
Ne murmurez pas. Verset 10.
Now most of us were okay until we got to that, right?
On était tous d'accord jusqu'à ce verset 10.
As some of them also complained.
Ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent.
And then verse 11 says, now all these things happened to them as examples.
Il répète verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple.
And they were written for our admonition.
Et elles ont été écrites pour notre instruction.
So there's instruction for us in the Old Testament.
Donc il y a des instructions pour nous dans l'Ancien Testament.
Now you have to be careful when you talk about being instructed from the Old Testament because there are things in the Old Testament that were written for our edification and encouragement, but they're not necessarily written to us, and God doesn't expect us to do those things today.
Alors là où il faut faire attention avec l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des passages et des versets qui vraiment nous consolent, nous édifient, nous instruisent, mais ils ne nous sont pas directement adressés pour qu'on obéisse à la lettre.
One of the things we talked about in class last week was some of the laws of the Old Testament. How do you know which laws are for today and which laws are not for today?
En classe théologique, il y avait une question sur les lois particulières et certains jours qu'il fallait respecter.
And there are three different types of laws in the Old Testament.
Et je leur ai expliqué qu'il y a trois différents types de lois dans l'Ancien Testament.
One type of law would be a civil law.
La loi civile, les lois civiles.
You have to understand that God led Israel out of Egypt.
Dieu a sorti Israël d'Égypte.
And now they were becoming a nation.
Ils sont devenus une nation.
So they needed laws, they needed rules and regulations and guidelines to live by.
Une nation a besoin de lois, de règles pour vivre, pour s'organiser.
So God gave Moses civil laws to judge the people by.
Donc Dieu a révélé à Moïse des lois civiles pour juger le peuple.
One example of a civil law is an eye for an eye and a tooth for a tooth.
Une des lois civiles qui est connue, c'est un œil pour œil, dent pour dent.
Okay, and what that means is that if I hurt Emmanuel and I cause him to lose one of his eyes, and we go before a judge to settle that, then the judge could allow Emmanuel to take out one of my eyes, but not two of my eyes. That would be just punishment.
Donc cette loi est là pour établir une punition, un jugement juste, équitable. Si j'enlève un œil à Emmanuel, le juge autorisera ce qu'on m'enlève un œil à mon tour, et non pas deux yeux, hein, voilà.
An eye for an eye, a tooth for a tooth, and no more.
Voilà, un œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire n'allez pas au-delà, soyez équitable et juste dans vos punitions.
So that was a law that was given for governing society and social relationships.
Ces lois civiles ont été données par Dieu pour la société, pour que ça fonctionne correctement.
And then there were also ceremonial laws that were given.
La deuxième sorte de loi, c'est les lois cérémonielles.
Remember, God was to be worshipped.
Ils devaient adorer leur Dieu.
But he's a holy God. You can't just decide how you want to worship God and do whatever you want to do.
Mais ce Dieu saint, vous ne pouvez pas l'adorer n'importe comment, comme il vous plaît.
So God laid out some specific laws for Israel related to worshiping God in the wilderness.
Donc Dieu a placé des lois cérémonielles qui expliquent comment s'approcher de Dieu.
A lot of people don't understand why God would kill or destroy Nadab and Abihu. You may remember that story. Fire came out from the altar and consumed them.
Peut-être que si vous lisez ce passage de l'Ancien Testament où Nadab et Abihu sont consumés par un feu du ciel, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils sont tués comme ça sur place par Dieu.
And why would God do that?
Pourquoi Dieu est-il si sévère, hein?
It was because God had given them specific instructions on how to worship him because he is a holy God. And they disregarded that, and so God made an example of them.
Parce que Dieu, en tant que Dieu saint, avait spécifié des éléments précis pour s'approcher de lui, et Nadab et Abihu, en l'occurrence, n'avaient pas du tout respecté, ils avaient méprisé ces lois cérémonielles.
So there were ceremonial laws that related to worshiping God and religious functions.
Donc, les lois cérémonielles servaient à s'approcher de Dieu, à l'adoration de Dieu et à servir Dieu dans la religion.
And then there were moral laws.
Troisième sorte de loi, les lois morales.
So you have civil, ceremonial, and moral laws.
Civil, cérémoniel, moral.
And the moral laws would be like the Ten Commandments. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal.
Donc les lois morales, bien sûr, les dix commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc.
And those are moral laws that are based on the character of God.
Ces lois morales sont fondées sur le caractère même de Dieu.
And the sanctity of humanity.
Et aussi sur
the holiness of humanity.
Donc sur l'aspect sacré de l'humanité,
because,
de la vie.
Because man is the crown of God's creation.
Parce
we're created in the image of God.
Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes la couronne de sa création.
So when you're reading the Old Testament, and if you're reading in the first five books in the Pentateuch, for example, you just have to understand that some of those laws, because you read those laws and you go, ooh la la, why that?
Donc, si vous lisez dans le Pentateuque, les cinq premiers livres, et vous tombez sur une de ces lois, vous pouvez vous dire, mais pourquoi Dieu a donné cette loi, ou à quoi ça sert, est-ce que je dois le faire maintenant?
So when you come across one of those, just ask yourself, is this for governing society? Is it a religious law or rule? Or is it more of a moral law?
Alors, quand vous tombez sur un de ces commandements quelconques, il faut vous demander, est-ce que c'est une loi civile, est-ce que c'est une loi cérémonielle ou une loi morale?
But look at the instruction in the book of Proverbs.
Regardez dans le livre des Proverbes toutes ces instructions.
So much wisdom in the book of Proverbs.
Beaucoup de sagesse dans ce livre.
Okay. And then, just like Paul mentions in chapter 10, look at the examples of individuals that we learn from in terms of instruction.
Et donc, il y a, comme Paul le dit, il y a plein d'individus desquels nous apprenons, nous instruisons pour la foi.
So there is devotional material in the Old Testament. There is instructional material in the Old Testament.
Donc dans l'Ancien Testament, il y a des choses pour le culte personnel, pour la relation avec Dieu, et puis aussi pour l'instruction.
And there is theological material in the Old Testament.
Il y a aussi des éléments théologiques dans l'Ancien Testament.
And by that I mean primarily that there are verses in the Old Testament that teach us things about God that we would not know if all we had was the New Testament.
Il y a des éléments qu'on apprend sur Dieu dans l'Ancien Testament qu'on ne saurait pas si on avait que le Nouveau Testament.
I can't imagine not having Isaiah 40.
Je n'imagine pas la Bible sans Ésaïe chapitre 40.
When Isaiah talks about the incomparable greatness of God.
Quand là, Ésaïe décrit l'incomparable grandeur de Dieu.
Or just Isaiah as a whole, when he talks about in chapter 6 of the angels around the throne of God saying, Holy, 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 Lord God Almighty.
Ou Ésaïe 6 qui nous décrit le trône de Dieu avec les anges qui disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
And so much more.
Et tellement
in the
plus
Old Testament.
Que cela.
So, the Old Testament is important because it provides a foundation for the entire Bible.
Donc l'Ancien Testament est important parce qu'il nous donne une fondation pour le reste de la Bible.
It was used by Jesus and his disciples.
Deuxièmement, parce que Jésus et les apôtres l'utilisaient tout le temps.
It provides a historical setting for Christianity.
Troisièmement, parce que ça procure un arrière-plan historique pour la chrétienté.
And it's spiritual food and nourishment for the believer.
Et quatrièmement, parce que ça donne une nourriture spirituelle pour le croyant.
So why then do we neglect it?
Alors pourquoi le négligeons-nous?
Don't raise your hand.
Ne levez pas la main.
But how many of you have read through the New Testament at least once?
Combien d'entre vous?
Read through the New Testament.
So we don't raise our hands.
Don't raise your hand.
Donc vous ne levez pas la main mais vous répondez silencieusement et.
I'm just asking the question.
Donc
have you
combien
read, have you read through the New Testament?
Le Nouveau Testament une fois?
Okay. Have you read through the Old Testament?
Combien ont lu tout l'Ancien Testament une fois?
And maybe you have.
Peut-être que vous l'avez fait.
But in America, if I were to ask that question
si
in the average church,
poser cette question dans une église moyenne en Amérique,
probably half the people in the church would raise their hand to the first question.
Je dirais que la moitié des chrétiens lèveraient la main pour dire oui, j'ai lu le Nouveau Testament une fois.
And less than a fourth would raise their hand for the second question.
Et probablement moins d'un quart de l'église lèverait la main disant oui, j'ai lu l'Ancien Testament une fois.
So why is that?
Mais pourquoi ça?
Why do so many Christians find it easy to neglect the Old Testament?
Pourquoi est-ce si facile d'une certaine façon de négliger l'Ancien Testament?
And I think the biggest reason is because the perception of the Old Testament is that it is hard to understand and it's not relevant for me today.
Donc je pense que les raisons majeures de cette négligence, c'est que on trouve que c'est dur à comprendre et en plus on dit ça ne va pas répondre à mes besoins primaires ou prioritaires.
And what I want to do is share with you something that I think will help you to better understand the Old Testament as you read it and maybe motivate you to read it more often.
Et donc j'aimerais vous demander de vous donner des éléments qui vont vous aider à mieux comprendre l'Ancien Testament et vous motiver à le lire plus souvent.
You cannot understand most of the Old Testament.
On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament
without understanding
sans comprendre
that most of the Old Testament is about God's dealings with Israel based on his covenant with Moses.
Que la majorité de l'Ancien Testament parle de Dieu et sa relation avec Israël à travers l'alliance qu'il a faite avec Moïse.
And God makes that covenant with Moses in the book of Exodus.
Cette alliance avec Moïse est faite dans le livre de l'Exode.
And then repeats it in the book of Deuteronomy.
Et elle est répétée dans le livre du Deutéronome.
Now let's look at that covenant for just a minute.
Regardons cette alliance, cette première alliance.
Let's start with Deuteronomy chapter 6.
On va regarder dans Deutéronome chapitre 6.
The book of Deuteronomy means second law.
Deutéronome, ça veut dire répétition, deuxième loi.
Israel is about to go into the promised land, and now Moses is reminding them of the law that God had given them to prepare them to go into the promised land.
Israël s'apprête à entrer dans la terre promise, et Moïse rappelle toutes les lois de Dieu à son peuple.
And verse 20 through 25.
Donc, Deutéronome 6, 20, 25.
Why don't you just read that rather than repeating after me?
Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits? Tu diras à ton fils, Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné.
Okay, notice in verse 24, the Lord commanded us to observe all these statutes and to fear the Lord our God for our good.
Verset 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel pour notre bien, pour que nous soyons heureux.
That he might preserve us.
Et pour que Dieu nous conserve la vie.
Okay, now look at chapter 27.
Allons maintenant au chapitre 27 de Deutéronome.
Moses said, that's what you're to teach your children, you're to remind your children.
Donc, il venait de dire, voilà ce que vous devez enseigner à vos enfants.
And one of the things we've seen in our study at the Bible Institute this past week is it only takes one generation to get away from God.
On a vu dans les cours cette semaine qu'il suffit d'une génération pour que tout le peuple s'éloigne de Dieu.
Chapter 27 and verse 9. Deuteronomy.
Une génération. J'ai dit autre chose? Non, non. Il suffit d'une génération.
Deuteronomy 27, verse 9.
Deutéronome 27, 9. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, « Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. »
And verse 10.
10. « Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. »
You have become the people of God.
Tu es devenu le peuple de Dieu.
Therefore, you shall obey the voice of the Lord your God.
Donc, tu dois obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu.
And then Moses talks about some of the cursings that could come.
Et Moïse présente aussi les malédictions qui viennent quand on obéit pas.
And in chapter 28, he expands on that.
Et verset 28, il développe cette question.
Look at verse 1 and 2.
Versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel.
You'll have all these blessings if you obey the voice of God.
Si tu obéis à la voix de Dieu, tu seras béni, tu auras toutes ces bénédictions.
Now look at verse 15.
Et maintenant, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage.
So if you obey God, you're blessed, you can stay in the land. You disobey God, you experience a curse.
Si tu obéis à Dieu, tu seras béni, tu resteras dans le pays. Si tu n'obéis pas, tu seras maudit et tu auras plein de malédictions.
Look at verse 20.
Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions.
If you forsake God, God's going to punish you, Moses said.
Moïse dit, si vous abandonnez votre Dieu, Dieu vous punira.
Look at verse 47.
On saute au verset 47 du chapitre 28, toujours. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur.
And verse 48.
Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi.
If you don't serve the Lord your God with joy because of the way he's blessed you, and you turn away from him, then he's going to put you in the hands of your enemies.
Donc si vous n'obéissez pas à Dieu avec joie et bon cœur, Dieu vous livrera à vos ennemis.
And then verse 58, same chapter.
Verset 58, toujours le même chapitre. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu,
that you may fear Carefully observe all the words that you may fear this glorious name, the Lord your God.
Mettre en pratique les paroles et craindre le nom glorieux et redoutable de l'Éternel.
If you don't do that, then the Lord will bring these plagues and judgment, and you'll be back in slavery.
Si tu ne fais pas ça, Dieu t'enverra des plaies terribles et tu seras amené en esclavage à nouveau.
And look at verse 64.
Verset 64.
The Lord will scatter you among all the peoples from one end of the earth to the other.
L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre.
And that's what has happened.
Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Because they did not obey God.
Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu.
Now that's the pattern in the Old Testament.
Donc c'est le modèle qu'on retrouve dans tout l'Ancien Testament.
That's under the old covenant.
C'est l'ancienne alliance, comme on l'appelle.
Okay. But the church is different.
Mais l'Église n'est pas pareille.
The church is not in a covenant with God, even under the new covenant. We experience the benefits of the new covenant, but God hasn't made a new covenant with the church. He's made a new covenant with Israel.
Donc, nous sommes sous une nouvelle alliance. Mais Dieu n'a pas fait la nouvelle alliance avec nous. Il a fait la nouvelle alliance avec Israël.
Jeremiah 31 makes it very clear that that covenant is with Israel, not with the church.
Jérémie 31 dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai avec Israël.
But we benefit from that covenant.
Mais en fait, nous sommes au bénéfice de cette nouvelle alliance.
Okay. Just like Gentiles benefited from the old covenant.
Comme les païens bénéficiaient quand ils croyaient en Yahvé, hein, de l'ancienne alliance.
The book of Ruth, for example.
Ruth, par exemple. Hein.
Okay. Rahab the harlot in the book of Joshua.
Rahab dans le livre de Josué.
Okay. So in the New Testament,
dans le Nouveau Testament,
the reason sometimes I think people struggle with the Old Testament is because they have this Old Testament idea and they bring it over into the New Testament.
Voilà, le danger, ce qui nous gêne dans l'Ancien Testament, c'est qu'on a tendance à le transposer dans le Nouveau.
And it's this idea that if I'm good, God's going to bless me and accept me, and if I'm not good, God's going to judge me and he's going to reject me.
On interprète donc ces versets qu'on a vus en disant, si j'obéis à Dieu, Dieu va me bénir et m'accepter. Si je n'obéis pas, il va me rejeter.
But that's an Old Testament idea.
Mais ça, c'est une idée de l'Ancien Testament.
The New Testament emphasizes the New Covenant.
Dans le Nouveau Testament, on a la Nouvelle Alliance.
And under the New Covenant, we are the children of God by faith in Jesus Christ, and God accepts us.
On devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et Dieu nous accepte sur cette foi.
Not on the basis of whether we obey or we don't obey, it's on the basis of our faith in Jesus Christ.
Dieu ne nous accepte pas si on obéit ou si on n'obéit pas. Il nous accepte sur la base de notre foi en Jésus-Christ.
And because of our faith in Jesus Christ, we have that desire in our heart to honor the Lord and live for him.
Mais dans la nouvelle alliance, si on a cette foi en Jésus-Christ, on a un nouveau désir dans le cœur d'obéir à Dieu et de servir Jésus-Christ.
And if, for example, if I fail, if I falter, if I do like Israel and I stop tithing and I stop worshiping at the house of God and I get away from God and like the people that Jeremiah preached to, I backslide in my heart.
Donc admettons que comme dans l'Ancien Testament, j'arrête d'aller à l'église, j'arrête de donner à Dieu, j'arrête de servir Dieu, je deviens un chrétien rétrograde, voilà, pardon.
So as you read the Old Testament, I'm sorry, I didn't finish that, did I? If we do that, John 10, 28 and 29, I'm still a Christian. I'm still a believer.
Si je suis né de nouveau, Jean 10, 28, 29 me promet que je ne peux jamais être séparé de Dieu, même si je m'éloigne de lui.
And if I'm truly a believer, the Spirit of God will work in my heart to bring me back to him.
Et en fait, si j'appartiens au Seigneur, le Saint-Esprit va tout faire pour me ramener à Dieu.
So as we think about the Old Testament and the New Testament, and especially the Old Testament for today, remember that it's a different basis of relationship with God between the Old Testament and the New Testament.
Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, rappelez-vous que ce n'est pas la même base pour s'approcher de Dieu. Ils étaient sous la loi, nous sommes sous la grâce.
So I think as you read the Old Testament, I think you will enjoy it more if you'll focus on a couple of things.
Donc, je pense que vous J'apprécierai plus l'Ancien Testament si je vous donne quelques éléments là.
The first thing I would encourage you to focus on as you read and study the Old Testament is the greatness of God.
La première chose que vous pouvez chercher en lisant l'Ancien Testament, c'est combien Dieu est grand.
Just think about what you know about the Old Testament.
Qu'est-ce que vous savez sur l'Ancien Testament?
Stories that you know. Daniel.
Daniel, les histoires de Daniel.
The Exodus.
L'Exode.
Chapters that maybe you recall. Chapters maybe you remember.
Des grands chapitres qui vous viennent à la mémoire tout de suite.
Just think for a minute about how they magnify the greatness of God.
Pensez comment ces chapitres élèvent, exaltent la grandeur de Dieu.
And that was one of the last things that God says in the Old Testament. If I'm a master, then where's my honor?
Et c'est dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu dit, si je suis votre maître,
my name is...
pourquoi ne m'honorez-vous pas suffisamment?
My name is to be great among the Gentiles.
Mon nom est là pour être glorifié parmi les gentils, les païens.
So, just the greatness of God in the Old Testament, the importance of His glory.
Donc l'importance de la gloire de Dieu.
The glory of God, the holiness of God.
De sa sainteté.
The power of God.
La puissance de
the
Dieu.
The mercy and grace of God.
La miséricorde, la grâce de Dieu.
Even after Jeremiah saw the city of Jerusalem decimated.
Lorsque Jérémie a vu la ville de Jérusalem complètement dévastée.
He wrote a book and he talked about great is God's faithfulness and his mercies are new every morning.
Et il a pourtant écrit ce livre, Les Lamentations, où il dit que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin.
So as you read through the Old Testament,
donc, lorsque vous lisez l'Ancien Testament,
focus on the greatness of God.
Recherchez-y la grandeur de Dieu.
And secondly,
I think
it is good for us to focus on the sinfulness of humanity.
Vous pouvez aussi chercher dans l'Ancien Testament la désobéissance de l'humanité.
And the reason I say that is because I think that keeps us humble.
Ça nous garde humble de voir ça.
We are prone to grow astray. We have that inclination to get away from God.
Naturellement, nous sommes prompts à nous éloigner de Dieu et à le quitter.
And I know nobody else here struggles with pride, but I certainly do.
Je pense que personne ici n'a de problème avec l'orgueil, mais moi j'en ai.
And as you read the Old Testament,
et quand vous lisez l'Ancien Testament,
there were flaws in Abraham's life.
On voit que même Abraham avait des défauts.
Certainly flaws in David's life.
David avait des gros défauts.
And look at, as you read the Old Testament, God is showing us how human we are.
Et en fait, dans l'Ancien Testament, on découvre à quel point notre humanité est faible.
But in spite of that sinful humanity, God is still gracious and merciful.
Mais malgré nos péchés, Dieu est encore miséricordieux et gracieux avec nous.
And he's reminding us of how important it is that we are open to his forgiveness and we seek his forgiveness.
Et donc dans l'Ancien Testament, il nous rappelle combien nous devons nous ouvrir au pardon de Dieu, aller vers lui pour être pardonné.
So I would say as you study the Old Testament, God did not put the story of Abraham in the Old Testament, for example, so that we would say, oh man, I want to be just like Abraham.
Quand Dieu a mis l'histoire d'Abraham dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour qu'on se dise, « Oh, je vais imiter exactement Abraham. »
Or Daniel, you know, Daniel, « Oh, he's my hero, I want to be just like Daniel. »
Ou Daniel, « C'est mon héros, je vais faire comme Daniel. »
Nothing wrong with wanting to be like good and godly men.
Il n'y a rien de mal à vouloir imiter le bien et des hommes de Dieu.
But that's not why it's in the Bible.
Mais ce n'est pas pour ça que ça a été mis dans la Bible.
It's in the Bible because God wants to show us how he worked in Daniel's life and in Abraham's life. God is the hero of the Bible.
C'est dans la Bible pour qu'on voit combien Dieu a utilisé magnifiquement ces hommes et ces femmes. C'est Dieu qui est grand à travers ces hommes et ces femmes.
So I would say focus on the greatness of God.
Donc concentrez-vous sur la grandeur de Dieu.
And our own sinfulness.
Et sur notre petitesse, notre péché.
And then I would say focus on the need for devotion, the need to be committed to God, the need to love God, the need to draw close to God.
Et cherchez aussi dans l'Ancien Testament à accroître votre relation personnelle, votre amour, votre dévotion à Dieu.
Like the psalmist said in Psalm 42 in verse 1, as the deer pants after the water, so my soul longeth after thee, O God.
Comme dit le psaume 42 verset 1, comme la biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après
said,
toi, ô Dieu.
My soul thirsts for God. It thirsts for the living God.
Mon âme a soif du Dieu vivant.
And as you read through the Old Testament, as you study the Old Testament, Let God speak to your heart and build within you that desire for God, that passion for God.
Et en lisant l'Ancien Testament, laissez Dieu vous donner cette soif de Dieu, de chercher, de rencontrer le Seigneur.
When you see the mistakes of men in the Old Testament, just fall on your knees and say, oh God, draw me closer to you. Oh God, fill me with your spirit. Oh God, protect me from this.
Quand vous lisez la chute des hommes et du peuple de Dieu, vous pouvez prier, oh Seigneur, garde-moi près de toi, garde-moi dans l'obéissance.
Allow God to speak to your heart as you read through the Old Testament, as you study the Old Testament.
Laissez Dieu vous parler à travers les paroles de l'Ancien Testament.
Jesus said in Matthew chapter 5 and verse 6.
Matthieu 5 verset 6, Jésus a dit:
Blessed are they which do hunger and thirst for righteousness.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice.
For they shall be filled.
Car ils seront rassasiés.
In regards to the Old Testament, in 2 Timothy 3:16.
Et 2 Timothée 3:16 nous rappelle.
Paul said all Scripture
que toute l'Écriture
is given by inspiration of God
est inspirée de
and
Dieu
is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness.
Est utile pour la doctrine, l'instruction, la correction et faire de nous un homme de Dieu accompli.
Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
So the Old Testament can help you do that.
Et l'Ancien Testament peut vous combler dans ce sens.
Okay. I hope that's been an encouragement to you, and I hope you will spend some time in the Old Testament.
J'espère que ça vous a encouragé, que vous passerez plus de temps dans l'Ancien Testament.
Thank you very much.
Romuald?